This is CKCU Literary News, les actualités littéraires dans le monde francophone.
Voici le Montréal, la recrue du mois, présentée par Lucie Renaud, rédactrice en chef.
La recrue du mois, chaque mois le 15, le premier roman québécois en vedette, pour vous donner une meilleure idée de ce que la production d'ici nous réserve.
Une coproduction de la recrue du mois et de CKCU Literary News, réalisée par
Lucie Renaud
et Hanska Ogerup-Reicht.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission des actualités littéraires sur CKCU. Lucie Renaud au microphone, qui vous souhaite une très belle année 2013, tout en lecture et en découverte. En septembre, les éditions Druide faisaient leur rentrée littéraire avec 4 titres inaugurant une nouvelle collection, qui s'appelle Écart, dirigée par le poète, romancier, essayiste, écrivain et maintes fois lauréat de prix littéraire, Normand de Bellefeuille. Je me suis entretenue avec lui sur les défis liés à la mise sur pied d'une nouvelle maison d'édition. En deuxième segment d'émission, nous retrouverons Martin Robitaille, un des auteurs qu'il a de nouveau accueilli et qui parle un peu de la relation qu'il a entretenue avec Normand de Bellefeuille et aussi de son deuxième roman.
Normand de Bellefeuille, vous lancez ces jours-ci une nouvelle maison d'édition.
Oui.
N'est-ce pas un rêve un peu fou ou doit-on vous taxer de folie pure de tenter la chose?
C'est tout à fait fou, totalement. Mais je fais ça avec des gens que je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai travaillé chez Québec-Amérique pendant 13 ans. Donc, on se connaît, on connaît nos qualités, on connaît tous nos défauts. On s'est déjà beaucoup engueulé et on est toujours resté amis. Donc, on sait qu'on est capable de travailler ensemble. C'est fou, mais en même temps, on a un appui de fond qui est très solide, qui sont les éditions, enfin pas les éditions, mais Druide Informatique. Une maison extrêmement établie, extrêmement forte et qui nous assure des représentants en librairie, du soutien technique et bref, tout ce qu'il faut pour arriver à l'ultime date où nous pourrons demander des subventions. Parce que pour l'instant, c'est impossible. Donc, non, on est très, 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 très confortable. Donc, c'est pas si fou que ça. En plus, on a l'expérience et, on a été à l'écoute et on n'a pas maraudé, on n'a pas téléphoné à certains auteurs, mais on a écouté. Donc, la première saison, ce sont surtout des auteurs qui nous ont approchés, avec qui on a travaillé, avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs années, dont Alain Beaulieu, François Desalliers, Martin Robitaille. Mm-hmm. Bon. Et une nouvelle recrue que vous recevrez tantôt.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va faire, en fait, la marque distinctive des éditions Druide si on cherche une personnalité aux éditions?
J'allais dire la qualité, mais récemment, j'ai fait une blague à Daniel Lemay de La Presse qui l'a reproduite, qui a dit « Il ne se publie pas trop de livres au Québec, il s'en publie trop de mauvais. » Et là, j'ai eu une quantité de courriels, d'insultes totales, parce que les gens n'avaient pas compris que c'était une blague. Mais c'est sûr que bon, on cherche toujours le bon texte, le texte original, le texte qui se démarque. Quand ce sont des nouveaux auteurs, là où ça fait sa marque dans la nouveauté. Mais on n'a pas, il n'y a pas de recette, hein. Mm-hmm. Je veux dire, si j'avais la recette, là, je serais le seul éditeur au Québec, je serais très riche. Et puis, beaucoup de mes concurrents seraient très, très, très violents.
Sans aucun doute. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est un bon livre?
Un bon livre, c'est un livre qui ne réinvente rien en termes de contenu. En termes de sujet, parce que, bon, qu'on le veuille ou non, à peu près tout a été dit, tu sais, l'amour, la mort, la haine, bon, etc. Mais c'est un livre qui réinvente un tout petit peu la forme, que ce soit le rythme, que ce soit la structure, le style, si le sujet est bon, mais que la forme est moche, ça marche pas avec moi, là. Il faut que j'aie un petit coup de foudre dans les 20 premières pages. Et qu'on me propose quelque chose d'un peu nouveau. Et là, écoutez, on me paye, moi, pour ma subjectivité. Hein. C'est la seule chose pour laquelle on me paye. Puis quand je vais dans des rencontres avec des étudiants, soit dans des cégeps ou dans des universités, très souvent, il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir directeur littéraire? » Et je réponds tout le temps « Vieilli. » Parce que le gars qui va t'engager ou la fille qui va t'engager pour ta subjectivité, va te payer pour ça. Et une subjectivité, ça se construit. Et ça se construit avec le temps. Mm-hmm. Faut lire beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui fait que quand on reçoit un manuscrit, on est capable de dire, ah, tiens, là, il y a quelque chose de neuf. Il y a quelque chose de nouveau. Bon. Alors, c'est ça. Moi, on me paye parce que je suis vieux, c'est tout.
Je pense qu'on peut mettre ça en doute. Je pense que l'expérience n'est pas nécessairement une question d'âge. Mais on parle de lecture donc active de votre part. Quand oui. vous... Dans les 20 premières pages, quand même, certains livres, il faut faire vite là, pour vous oui. capter.
Oui. Oh, oui, tout à fait, parce qu'on en reçoit beaucoup. On en reçoit, c'est hallucinant. Hein? Au Québec, on écrit beaucoup. C'est le fun. Là. On écrit beaucoup. On publie beaucoup. Et on vend beaucoup, ce que les gens ne savent pas. Quand, par exemple, aux éditions Druide, on va sortir le recueil de nouvelles d'Emmanuel Cornu, on va le publier à 1200 exemplaires. En France, il faudrait que ce soit 12 000. Hein? Mm-hmm. Toute proportion gardée. Jamais ça arriverait. Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'on va en vendre 1200? Sans doute pas, mais... Pour avoir une distribution, le Québec c'est grand, hein? Pour avoir une distribution nationale qui en est partout, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, etc., faut publier 1200. Et si on en vend 500, ben 600, 700, ben en France, ce serait 5000, 6000, 7000. Et ça arrive pas là-bas non plus. Donc faut arrêter d'avoir un réflexe de coloniser en se disant, ici, les gens lisent pas, les gens achètent pas de livres. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On achète des livres, on en lit beaucoup, on en critique beaucoup. Moi, je trouve qu'on est dans un milieu là qui est extrêmement excitant présentement, même si c'est, comment dire, financièrement difficile. C'est certain, je veux dire, c'est un petit marché. Hein.
Donc, évidemment, c'est en vase tout jusqu'à un certain point, mais en même temps, il y a quand même, dans les dernières années, plusieurs... success story, si on me permet l'anglicisme, ah, oui. même au niveau des premiers romans qui ont fait mentir toutes les statistiques.
Tout à fait. Et il faut jamais, au Québec, on a un peu aussi le symptôme du succès qui est, comment dire, suspect. Hein? Au Québec, quelqu'un vend beaucoup de livres, on dit, oh, ça doit pas être bien bon, il vend beaucoup de... Non, non. Il faut pas lever le nez sur quelque succès que ce soit. Moi, j'ai mon ami Brian Perrault, qui, avec Amos d'Aragon, a vendu à peu près 1 200 000 exemplaires. Et il y a des gens qui lèvent le nez là-dessus. Hein? Moi, je leur dis, écoutez, Brian Perrault a ramené des ticus, hein, des petits garçons à la lecture. Ce que Nadia Desjardins fait du côté des petites filles.
Ce que Henri Verne faisait.
Ben, monsieur Henri Verne, oui, dont je vais faire la préface récemment. mais c'est fascinant. Je veux dire, qu'on ramène les petits gars aux livres plutôt qu'au Nintendo ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi qu'il faudrait que quelqu'un qui gagne de l'argent et qui en gagne beaucoup, comme Marie Laberge ou comme plein d'autres, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit discuté, contesté? Mm-hmm. Moi, j'aimerais bien ça, faire bien de l'argent avec mes livres. Mm-hmm. Mais ça pogne pas.
De toute façon, beaucoup d'argent dans les livres au Québec, c'est quand même pas des millionnaires. Là. Il faut pas se leurrer.
Non, il y a à peu près... non. Mais n'empêche qu'il y a quand même au Québec, toute proportion gardée, encore une fois... sans doute davantage d'écrivains qui arrivent à gagner leur vie avec leur écriture qu'en France, ou même qu'aux États-Unis.
Quand même.
Oui, je pense que... Oui, oui. Et puis, tant mieux pour eux, puis tant mieux pour tout le lectorat aussi. Quelqu'un qui achète... Quelqu'un récemment me disait les 400 000 exemplaires de Marie Laberge qu'elle a vendus. Les gens qui ont acheté ça n'achètent pas d'autres livres. Et moi, je leur dis, les gens qui ont acheté ça n'achèteront peut-être pas d'autres livres. Comme les gens qui disent, le monde qui achète des livres chez Costco à rabais, ils vont pas en librairie. Peut-être que ces gens-là iraient pas en librairie ailleurs. Donc, il faut se réjouir de tout ce qui est acheté, de tout ce qui fait circuler le texte. Que ce soit Marie Laberge, que ce soit Brian Perrault, moi, j'aimerais bien ça, mais ça marche pas.
Moi, il faut garder sa voix en même temps.
Oui, mais moi, j'écris pour le fun. Hein. Moi, j'écris juste pour le plaisir. Et si j'ai pas de plaisir, je vais arrêter d'écrire. Quelqu'un récemment me disait, est-ce que tu serais capable de vivre sans écrire? Et, mon Dieu, j'ai quelques estimes aussi. Là. J'ai dit, je pense que oui. Je serais capable de vivre sans écrire, mais jamais de vivre sans lire. Mm. Pour moi, la lecture est fondamentale. Je me lève à 5 heures le matin, je lis une heure et demie, 2 heures. Quand je me couche le soir, je relis 1 heure et demie, 2 heures. C'est rare que j'écris autant de temps par jour. Très, très rare. Mais pour moi, la lecture, c'est ce qui a fait ma vie. Hein. C'est ce qui a constitué tout mon trajet. Et vivre sans lire, pour moi, ce serait, une catastrophe.
Mmh. Alors, maintenant, vous êtes, dans le fond, un lecteur professionnel, en plus d'être un lecteur pour le plaisir en tant qu'éditeur.
Ouais.
Est-ce que, quand vous lisez un livre pour le plaisir, est-ce que c'est différent?
Oui.
Vous êtes toujours en train
j'essaye,
de critiquer.
J'essaye. C'est-à-dire que, parfois, le soir, je me couche avec un livre, supposément pour le plaisir, et tout à coup, j'ai dans la main un crayon rouge. Et ma blonde me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oh merde, j'avais oublié que c'était pas... Parce que j'aurais tendance à corriger. Non, je suis un peu schizophrène, j'arrive à faire la différence entre les deux assez bien. Et c'est pour ça que finalement, je lis de façon très, très, très hétéroclite. Je lis beaucoup de polar, je lis beaucoup de romans fantastiques, je lis beaucoup de littérature sud-américaine, beaucoup de littérature italienne, américaine. Parfois, quelques romans québécois, quand c'est des chums, là, je me sens obligé. Mais je diversifie beaucoup mes lectures. Et parfois, il y a des chums qui arrivent chez nous, ils voient un livre sur la table à café, puis ils me disent, c'est toi qui lis ça? Puis je dis, ben oui, pourquoi? Ben, c'est bizarre que tu lises ça. Mais je dis, pourquoi? Tu sais, c'est bon. Tu sais, Stephen King, c'est bon. John Irving, c'est bon. Joy Carol Oates, c'est bon. Il y a plein d'auteurs américains, sud-américains, etc., qui sont très bons, mais il y a une espèce de snobisme. C'est comme si c'était pas assez littéraire. Alors moi, je suis qualifié de très littéraire, mais j'ai plusieurs personnalités.
Ben, je pense que c'est une force, là. Puis il y a certains livres qui sont pour certains moments aussi dans une vie.
Ben, tout à fait.
Ouais, et certaines heures de la journée même.
Ben oui, moi, je lis pas la même chose à l'aube qu'au crépuscule, hein. Mm-hmm. C'est certain, c'est très différent. Mais c'est ça, j'aime beaucoup ça me promener, j'aime beaucoup ça. Quand j'arrive dans une librairie, la plupart du temps, je regarde même pas sur les tables. Je dis au libraire, bon, qu'est-ce que tu me conseilles?
Okay.
Et puis là, ils me connaissent. Fait qu'ils prennent une chance, des fois. T'sais, des fois, mais à 90%, des fois, ils se trompent pas. Mm. Ils me connaissent. Ils savent que je suis très vaste comme spectre de lecture. Donc, ils me conseillent jamais les mêmes affaires. Jamais, jamais, jamais. Je lis beaucoup de philosophie. Je lis Derrida, Michel Onfray. Bon, ça, c'est à l'aube. C'est-à-dire quand l'esprit est un peu plus frais, le soir, ça va être plus Stephen King, oui.
D'accord. Oui. Alors, dans les premiers livres, la personnalité des premiers livres de Druid, qu'est-ce qui vous a accroché? Vous avez dit que c'est des auteurs avec lesquels vous avez travaillé, mais est-ce qu'on peut extraire quelque chose de cette première mouture?
Oui, la différence. C'est la différence dans le style, c'est la différence dans le sujet, c'est la différence dans la façon d'approcher un certain réel. Alain Beaulieu, c'est un roman américain. Martin Robitaille, c'est un roman presque français. François Desalliés, c'est un roman tout à fait québécois. Et Emmanuel Cornu, ben, c'est tout à fait inclassable.
Alors donc, si on en venait justement au recueil d'Emmanuel Cornu, qu'est-ce qui vous a accroché donc à la première lecture? Quand vous avez reçu le manuscrit, pourquoi avez-vous décidé que celui-là, je le veux, il faut que je le publie?
Ben, je me suis dit, il a dû être refusé ailleurs, donc je devrais peut-être le prendre. Non, non, c'est blague à part, ça a pris 10 pages, 15 pages, 20 pages. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible au rythme. Et d'abord, ce que j'ai senti, c'était le rythme, cette facilité à faire une répétition sans que ce soit de la redite, et tout ça incarné dans des personnages qui sont absolument fascinants. Un coup de foudre, là, vraiment, ça a été ça.
Mais ça arrive quand même assez rarement, j'imagine, pour un nouvel auteur, ce genre de coup de foudre-là.
Je dirais une fois par année. Maximum. Disons une fois par 2 ans, peut-être. Non, c'est très rare, c'est très, très rare. J'ai eu le même coup de foudre pour Maud Favreau, qui va publier la saison prochaine, que Pierre-Luc Landry, qui va aussi publier la saison prochaine. J'ai été très, très, très chanceux. C'est-à-dire que pendant la courte période que j'ai été aux éditions de La Bagnole, donc pendant 1 an, ces gens-là avaient envoyé leur manuscrit là. Et je dirais que dans les... peut-être 100 manuscrits que j'ai regardés, que j'ai lus, que j'ai examinés, il y en avait 3 qui sortaient. Okay? Donc, 3 sur 100, c'est une maudite bonne moyenne au bâton, là. Hein? Fait que je suis très content qu'il m'ait fait confiance.
Merci. Voilà.
Parfait.
Alors, bonjour, bienvenue. Je suis au Salon du Livre de Montréal avec Martin Robitaille, qui a lancé son deuxième roman récemment, En chemin, je t'ai perdu, aux éditions Druide. Premier roman qui avait été, qui a gagné le prix Ringuet avec les déliaisons, dont on avait parlé à la recrue. Et là, ouais. Tu as décidé de changer d'éditeur, ou enfin de suivre ton directeur littéraire, si je comprends bien.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix de le suivre? Pourquoi?
Je fais entièrement confiance à Normand de Bellefeuille. La situation était un peu tendue chez Québec-Amérique aussi, je dois dire. En chemin, je t'ai perdu, c'est la suite aux déliaisons. Alors, j'avais un dilemme, puisque idéalement, j'aurais préféré que la suite paraisse chez le même éditeur. Et en même temps, je ne voulais pas quitter Normand, en fait. Et donc, lui avait quitté déjà Québec-Amérique. Alors, j'ai décidé de le suivre, tout simplement. Et ça a pris du temps, parce qu'il est passé par La Bagnole, et puis le roman aurait dû paraître il y a 1 an. Mais il faut être patient dans ce métier-là, de toute façon.
Alors, ce roman, justement, ce deuxième roman, si on en parlait un peu, qui est la suite du premier, mais oui. Il me semble qu'on est dans un univers un peu différent, quand même, que dans le premier, qui était peut-être plus littéraire jusqu'à certains points. Là, il y a quand même un aspect assez ludique dans cette suite.
Oui. Ben, dans les déliaisons, il y avait des scènes d'humour aussi. Mais c'est vrai que le ton était peut-être plus littéraire, plus cynique aussi, plus rentre-dedans, plus critique sociale. J'avais des frustrations et ça m'avait fait du bien de les exprimer.
Alors, si on revient juste un peu sur le travail d'accompagnement qui s'est fait avec Normand, est-ce que ça a été différent? Quand on est en deuxième roman, est-ce qu'on a des attentes différentes ou c'est juste qu'on est plus confortable? Comment ça s'est passé, en fait?
Ben, moi, j'ai été chanceux parce qu'il paraît que le deuxième roman peut être très angoissant. Et puis, bon, j'ai eu un prix tout à fait par hasard. Je ne m'y attendais pas du tout, là, ce prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec. Alors, ça aurait pu m'inhiber, mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais déjà la suite en tête. J'avais pas fini de parler de Raphaël. Et j'avais déjà la fin du roman en tête, parce que tout le roman a été écrit en fonction de cette fin-là, que je ne révèle pas, parce que, bon, c'est un punch. Et donc, j'ai pas eu de mal à l'écrire. Je savais que ça allait bien se passer, même si on est toujours prisonnier un peu de l'écriture et du travail créateur. On sait pas où ça va nous mener, mais quand on connaît la fin de ce qu'on veut écrire, ça peut aider. Donc, j'ai pas eu de grande angoisse. Je pense que ça va être plus pour le troisième, en fait.
Si maintenant la boucle est bouclée, il va falloir aller ailleurs.
Il va falloir aller ailleurs. Il y a des lecteurs déjà qui m'ont dit qu'ils aimeraient voir Raphaël revenir dans un troisième roman, enfin heureux.
Alors, tout à l'heure, on a parlé d'auteurs de grande littérature qui influençaient Martin Robitaille, le lecteur.
Oui.
Quelles sont ces influences
ou
ses amours littéraires?
Là, on parle vraiment d'amour et d'influence, mais je me compare... évidemment, nullement à eux. Là. Moi, c'est une lignée assez précise de romanciers. Flaubert, Proust, Kafka, Salinger, Persig, Zen, traité du Zen et de l'entretien des motocyclettes, Duchamp. Quand je dis Gabriel Leroy aussi, là, les gens sont plutôt étonnés. Mais j'adore Gabriel Leroy pour... Ses enfants de ma vie et pour La route d'Altamont. Je sais pas, c'est une auteure qui, moi, me fait brailler. Donc, je l'ai tout près de moi dans mon cœur, mais évidemment, j'ai pas du tout le même genre d'univers qu'elle. C'est ça ma lignée, moi. Bon, après ça, évidemment, Proust, j'ai fait ma thèse sur Proust, j'ai écrit un essai sur Proust, je vais en écrire un deuxième là, l'année prochaine. J'ai réussi à m'en défaire par Houellebecq.
Tout à fait, parce qu'on ne sent aucune parenté entre Proust et ton écriture. Là.
Non, et le danger que beaucoup de lecteurs de Proust ont eu, c'est que Proust donne envie d'écrire, mais les gens sont pris dans
ses filets. C'est ça, c'est assez castrant quand même.
C'est vraiment castrant, oui.
C'est le faire du sous-Proust, il y en a plusieurs qui sont essayés, mais
tout le monde s'est cassé les dents. Ouais.
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Alors, comment justement cette voix-là, qui est assez unique, a-t-elle germé? Cet univers un peu déjanté, il y a comme une amertume, mais une tendresse en même temps dans l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi ou c'est quelque chose que tu voulais explorer autrement?
Je pense que ça fait partie de moi. Mais ce n'est ni de l'autofiction, ni autobiographique. Mais évidemment, je dirais que c'est plutôt une parenté psychique. Il y a beaucoup de choses que Raphaël voit du monde ou des manières dont il pense le monde, qui ont déjà été moi, qui ne sont plus nécessairement. Là, avec les déliaisons, je suis rendu ailleurs. Mais l'écriture est pour moi jouissive. Donc, quand j'écris, je me laisse aller. J'essaie d'être le plus authentique possible. Je pense que dans les ateliers de création, on dit souvent ça, là, soyez authentique. Votre voix va finir par émerger, tout ça. Bon, c'est facile à dire, c'est jamais facile à faire, mais je pense que de vouloir vraiment parler des choses qui nous préoccupent. Mais il y a quand même, j'espère, ce côté attachant. Parce que sinon, les gens qui l'ont lu n'auraient pas pu aller jusqu'au bout, ils l'auraient lâché. Là.
Tout à fait. Merci beaucoup pour ces moments.
Ben, merci à vous. Merci.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!